Comme chaque semaine, un petit tour du côté du jardin avec vous, Annick Baléry, bonjour.
Bonjour Philippe.
Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine. Je sais que nos auditeurs, c'est un petit moment de récréation, de s'évade avec vous.
Voilà, on fait un petit tour au jardin.
Un petit tour au jardin, ça fait toujours du bien. On pense bien sûr aux personnes qui malheureusement sont malades ou nous écoutent alités. Bien voilà, une petite parenthèse dans leur journée où on part dans le jardin à votre compagnie. Aujourd'hui, je ne connaissais pas, on avait parlé de la tour à patates.
Alors, la tour à patates.
C'est quoi la tour à patates?
C'est pas la tour de Babel, c'est la tour à patates. Alors, c'est quelque chose que j'ai expérimenté à deux reprises. Une fois dans le jardin d'une amie qui avait envie de cultiver des patates, mais qui malheureusement avait une terre qui était faite de remblai et qui, en plus, en temps de pluie, reconnaissait des remontées d'eau. Donc, absolument pas compatible avec les patates. Elle aurait fait du nénuphar, elle avait des chances, mais là, la patate, c'était pas... Alors, j'avais vu ça il y a assez longtemps sur un magazine de jardinage. Alors, je mets ça dans un coin de la tête et puis un beau jour, ça ressort.
Ça revient.
Et en fait, faire une tour à patates, ça va consister à faire une construction à partir d'un grillage qu'on va former sous forme de cylindre et on va cultiver les pommes de terre en hauteur, en fait.
D'accord.
Donc la première étape, c'est choisir un grillage. Alors moi, j'ai calculé, parce que bon, maigresse avec les périmètres, tout ça, voilà, qu'il fallait à peu près 2,30 m de grillage pour avoir quelque chose de pas mal. C'est-à-dire un cylindre qui va être suffisamment large pour être stable. Et puis pour la hauteur, petit 1,20 m, 1,50 m, c'est déjà pas mal. Donc on va fermer le cylindre. Si vous avez un grillage qui est rigide, vous n'aurez pas besoin d'armature supplémentaire. Si vous avez un grillage souple, il faudra peut-être planter quelques piquets de bois ou de bambou et enrouler le grillage autour de façon à fermer le cercle.
D'accord, oui, pour pas que le grillage s'effondre.
Le grillage s'effondre, voilà, pour lui donner un peu de tenue. Alors moi, j'en ai fait un aussi cette semaine-là, avec les gens de l'UTL 65 que je salue.
L'Université du Temps Libre.
Université du Temps Libre des Hautes-Pyrénées. Et en fait, on avait un grillage qui était très souple et on en a fait deux tours successifs et on avait planté des piquets en bambou, ce qui nous a permis d'avoir une structure fixe bien solide, bien stable. Ensuite, l'opération va consister à monter des couches de terre et des pommes de terre, mais vous comprenez bien que si on fait ça comme ça, la terre va s'échapper par les côtés, par le grillage. Alors en fait, pour colmater le grillage, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser de la feuille morte, c'est ce qu'on a fait avec les amis de l'UTL. Mais on peut utiliser, comme je l'avais fait avec mon ami, des mottes de gazon que l'on va placer sur les côtés.
D'accord.
De façon à boucher les mailles du grillage à mesure qu'on monte. Alors bien entendu, il faut que ce soit un matériau qui soit susceptible d'être transpercé par le germe de pomme de terre. Mais faites confiance à la patate.
Elle va...
elle va savoir faire, voilà. Donc après, vous avez des successions de couches de terre et de couches de pommes de terre. Alors,
des pommes de terre quelles pommes de terre?
Alors nous, on a fait avec de la pomme de terre de récupération. Il y a des gens qui préfèrent sélectionner leur variété. Par exemple, si vous voulez de la rate du Touquet ou de la Charlotte. Voilà,
ou Princesse Amandine.
À ce moment-là. Vous achetez dans les jardineries des petites caissettes avec des pommes de terre qui sont calibrées et qui sont déjà un peu germées. Mais sinon, on peut tout à fait envisager de faire ça avec les fonds de placard, la patate oubliée là, qui tend ses petits bras blancs et qui dit...
Est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas les consommer quand elles commencent à germer, les pommes de terre?
Ah oui, il vaut mieux pas, parce qu'elles, en fait, ce qu'elles fabriquent... Alors, si c'est dans le noir, c'est pas un problème. Mais si elles germent parce qu'elles sont exposées à la lumière, elles fabriquent une matière qui s'appelle la solanine. Et la solanine, c'est ce qui fait que les pommes de terre deviennent vertes. Et cette matière-là est toxique. Alors, ça me permet de faire un petit rappel pour les difficultés qu'on a eues à faire consommer la pomme de terre en France. La pomme de terre arrivait.
Elle a bien changé.
Ça a changé, voilà. Voilà. Elle est arrivée donc avec les gens qui revenaient d'Amérique, les premiers, les Christophe Colomb et compagnie.
Parce que ça vient des États-Unis.
Oui, tout à fait. Ouais. Oui, il y a une époque où on ignorait ce qu'était la pomme de terre.
Alors, ce qu'on n'y avait pas du tout ici.
Du tout. Mais même des haricots, on a du mal à imaginer. On mangeait des fèves. D'accord. Et les haricots est arrivé voilà, en même temps que la conquête de l'Amérique. Donc, haricots, tomates, maïs et pommes de terre.
D'accord. D'accord. Et c'est, voilà. ça poussait là-bas.
Et citrouilles aussi, toutes les courges. Voilà, ici, on n'avait pas, pas.
Pourquoi au début, on a eu du mal? Parce que ça venait de l'étranger.
Je vous explique. Non, pas parce que ça n'avait pas l'accent d'ici. Non. C'est parce qu'en fait, ça avait une fleur qui ressemblait à la fleur d'une plante toxique qui s'appelle la morelle. Qui a une fleur en étoile qui ressemble beaucoup à la fleur de pomme de terre et qui fait d'ailleurs partie de la même famille, la famille des Solanacées. Et il y avait une autre plante qu'on appelait aussi la belladone. Alors la morelle, c'était la plante des sorcières, hein, c'était le poison. La belladone, on s'en servait pour fabriquer une petite potion qu'on glissait dans les yeux. On se mettait une goutte dans chaque œil et on avait l'œil étincelant. D'où la belladone, la belle femme, et voilà.
D'accord.
Et donc, quand on a vu arriver cette plante, on a dit, mais on ne va pas manger ça, c'est n'importe quoi. Déjà, ça poussait sous le sol, donc il y avait plein de superstitions aussi par rapport aux racines, au monde souterrain. Et en plus, il y avait cette fleur qui rappelait le poison, donc les gens ne voulaient pas en entendre parler.
Elle avait tout faux dès le départ.
Elle avait tout faux, voilà.
Et comme quoi,
elle s'est rattrapée.
Sacrément, d'ailleurs.
Ça a été aussi le souci avec la tomate, puisque la tomate fait partie aussi de cette famille-là. Et la tomate, en fait, n'a été consommée en France, mais vraiment, qu'à partir de la Révolution française.
Autour de 1789.
Voilà. Alors, je vous explique pourquoi. Les Espagnols, eux, ils sont revenus avec la tomate et avec les recettes. Donc, eux, ils savaient que ça se mangeait. Et donc, déjà, au XVIIe siècle, ils mangeaient du gazpacho en Espagne. Ils savaient ce que c'était. Et puis, par le biais des occupations, en Italie aussi, on a su consommer les tomates. Et dans le comté de Nice, on l'a consommée aussi. Mais dans le reste de la France, pas du tout. Elle était consommée, elle était cultivée comme plante d'ornement. Et on a soupçonné quand même qu'on pouvait la manger quand, en période de famine, on voyait les chiens en manger. On se disait, tiens,
ils sont pas malades.
Peut-être que... Et en fait, ce qui a tout changé, c'est qu'à la Révolution française, il y a deux hommes qui sont montés... à Paris pour ouvrir un restaurant et qu'ils ont fait consommer de la tomate aux Parisiens et donc on a commencé à manger la tomate. Mais moi j'ai eu en main un livre de recettes de cuisine de ma maman. C'était le livre qui s'appelait c'était le livre de Ginette Mathiot qui avait fait un tabac. Elle vendait énormément de livres. C'était de la cuisine familiale. Et dedans, quand vous regardez, vous avez trois recettes avec de la tomate. Dont une sauce tomate qui est noyée dans la crème fraîche. Enfin, pas du tout les consommations qu'on connaît maintenant.
D'accord.
Voilà. Donc, revenons à notre tour.
En fait, ouais. On pourrait prendre une pomme de terre classique qu'on a achetée dans le commerce. Mmh. On la met dans la terre, elle germe et elle refait des pommes de
Alors,
terre.
Alors, c'est pas mal de voir d'abord si elle germe. Parce que quelquefois, malheureusement, les pommes de terre qu'on achète sont traitées à l'antigerme.
Ah.
Donc, voilà. Et oui.
D'accord.
Voilà. Et donc, si vous avez ça arrive et on a un filet de pommes de terre, on a au fond quelques pommes de terre qui ont les yeux qui commencent à se développer, ben là, on peut y aller. Hein, voilà. Après, vous avez des variétés qui vont être identifiées, ça dépend de ce que vous voulez manger.
Donc, on met la pomme de terre carrément dans la terre.
Voilà, alors on met une couche de terre.
Oui.
Sur les bords, on met de la feuille morte ou du gazon pour boucher les trous du grillage.
Mmh.
Et puis, on met tout autour quelques tubercules de pommes de terre. Alors, on ne les serre pas énormément, hein, on en met quelques-uns. Et on les met, mettons, à 20-25 cm du bord du grillage, à peu près. Non, un peu plus. Une trentaine de centimètres du bord du grillage.
Du coup, la tour, le diamètre, il doit faire combien ?
Alors, le diamètre, je ne sais plus. Je sais que j'avais mesuré une circonférence de 2,30 m. Après, je...
D'accord. Voilà, circonférence de 2,30 m, voilà. À peu près.
Alors, si plus votre tour va être grosse, et plus, en fait, l'arrosage va peut-être poser problème. Alors, les perfectionnistes installent au centre de la tour un tuyau de drainage. Alors, vous pouvez faire ça aussi avec un tuyau que vous percez à la perceuse, qui traverse toute la tour et qui va permettre, depuis le haut, d'arroser, d'arroser les plantations.
D'accord.
Voilà. Et vous montez successivement une couche de terre, une couche de pommes de terre, oui, et etc. Donc, quand elles vont commencer à pousser...
On fait un gratin de pommes de
voilà,
terre.
Voilà, c'est ça. Des lasagnes, c'est presque. Voilà. Et on va se retrouver avec, à la dernière couche, on peut mettre des pommes de terre un peu sur toute la surface, puisque voilà, elles vont pouvoir pousser en hauteur, alors que les autres, au contraire, vont pousser latéralement.
D'accord.
Vous allez vous retrouver avec une tour habillée de feuillage et de la magnifique fleur de la pomme de terre. Vous pourrez traquer le doryphore sans problème. Là, vous les verrez. Alors, pour les, j'ai une astuce un peu vilaine quand même. Ah. Vous pouvez mettre à profit les petits-enfants. Vous donnez une boîte, et quand la boîte est pleine de doryphore, hop, la petite pièce.
D'accord.
C'est vilain, ça.
Ça ressemble à quoi, un doryphore ?
À un doryphore, ça ressemblerait à une énorme coccinelle rayée de jaune et de noir. Et il faut savoir que maintenant, les gens détestent ça, ils sont à pieds joints dessus. Mais au XVIIIe siècle, ça s'est changé à prix d'or. Parce que ça arrivait d'Amérique, c'était une bestiole qui était extrêmement rare. Et donc, les gens les collectionnaient, les mettaient dans des petites boîtes vitrées. Enfin,
comme les papillons.
Exactement,
d'accord.
Voilà.
D'accord.
Et donc, voilà, la saison va passer. Vous arrosez quand même vos pommes de terre de temps en temps.
C'est quand que la saison des pommes de terre, quand c'est que ça sort ?
Alors, on les met en terre souvent au moment où les lilas sont en fleurs. Donc, ça doit correspondre à peu près à avril. Hein. Ça correspond en fait à un moment où la terre s'est bien réchauffée.
D'accord.
Si vous faites la tour à pommes de terre, vous pouvez un peu devancer cette date. Vu que bon, la terre, c'est vous qui la portez, il n'y a pas à attendre que la couche soit chauffée. Et puis, donc la saison va passer, et en fin d'été, début d'automne, vous avez le feuillage qui va jaunir. Et quand le feuillage jaunit, en fait, c'est que la tige est en train de mourir et que la pomme de terre est formée et qu'elle est, elle est sevrée de toutes ses branches. D'accord. Et à ce moment-là, c'est ce qui est formidable. Alors, j'ai oublié de vous dire, pour fermer la tour à pomme de terre, on se sert, vous savez, des colliers de serrage,
oui,
en plastique, oui, qui sont très, très solides. Voilà, vous n'avez juste, avec un sécateur ou avec une pince, à couper les colliers de serrage. Vous déroulez votre grillage et vous avez vos pommes de terre qui sont prêtes à être ramassées. Alors, on ne s'échine pas à creuser.
Oui.
On est sûr de transpercer aucune pomme de terre avec la pioche ou avec la fourche bêche ou avec Dieu sait quoi. Et c'est que du bonheur, voilà.
Et on peut s'en resservir pour l'année d'après.
Voilà, alors on peut se servir du grillage l'année d'après. On a quand même intérêt à porter une terre un peu, à enrichir un peu la terre.
Ouais.
Parce que là, les pommes de terre auront quand même puisé pas mal dedans. Voilà, donc petite astuce, et j'avoue que la première fois où j'ai fait ça avec mon amie qui est complètement néophyte et qu'elle a eu sa première récolte de pommes de terre, c'était l'émerveillement, elle était très très contente.
Ah oui. Ah, mais c'est vrai que ça prend une dimension, quand on a ses propres tomates, ses propres fraises, ses
tout
propres légumes, la salade, tout ça, on est... voilà, on l'a planté, on l'a vu pousser, on la mange, ça a une autre saveur.
Tout à,
hein,
fait, ouais. Mais c'est vrai, tout à fait.
La tour à patates, hein, voilà.
À tenter,
bien sûr.
Ah oui, c'est un côté esthétique. Et puis, bon, on voit un énorme gain de place, du coup. Voilà.
Oui, au lieu de faire un grand champ, on fait ça.
Exactement.
On fait comme dans les grandes villes. Hein. On va,
voilà,
en vertical.
On fait un building à patates.
Voilà. La tour à patates était notre chronique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, Annick Baléry. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.